Vous écoutez, on lit pour vous.
Guide de survie du locataire. Un dossier de Brittany Sullivan, paru le 27 mars 2026 dans la presse. Le printemps est une grosse période pour les locataires. C'est généralement à ce moment que les nouveaux baux sont signés et que les avis d'augmentation de loyer sont reçus. Et si on magasine une propriété, on doit se tenir prêt à faire une cession de bail ou une sous-location. Voici les principales notions à garder en tête. La clause G. Elle permet de vérifier le plus bas loyer payé lors des 12 mois précédant le début du bail. S'il n'y a pas eu de locataire au cours de ces 12 derniers mois, le locataire doit indiquer le dernier loyer payé et la date de ce dernier paiement. Vous pouvez ainsi voir si le prix demandé est conforme aux règles concernant les augmentations. La clause F. Elle concerne les logements de moins de 5 ans. Si la section F est remplie, le locataire peut augmenter le loyer du montant qu'il souhaite. Par contre, depuis 2024, le propriétaire doit indiquer dans le bail le montant maximum qu'il va pouvoir exiger au bout des 5 ans, affirme Antoine Morneau, sénéchal, avocat en droit du logement. Les inclusions. Certains électroménagers et meubles peuvent être inclus ou pas. Les animaux de compagnie. Un propriétaire peut interdire la possibilité d'avoir un animal de compagnie dans son logement ou imposer certaines conditions. Il y a une section dans le bail où on indique qui est responsable de quoi, ce qu'on doit faire ou pas, pour ce qui est du déneigement, par exemple. Ça peut avoir un impact sur notre qualité de vie, souligne Antoine Morneau, sénéchal. Un autre élément que les gens vont souvent négliger de regarder, c'est le règlement d'immeuble. Il va venir définir plein de choses, toutes les normes dans l'immeuble, et ça peut faire plusieurs pages. Il peut y avoir des choses assez contraignantes là-dedans que parfois on va oublier, donc ça vaut la peine de le regarder. Un locataire ne peut toutefois pas imposer de clauses déraisonnables, comme d'exiger du locataire de s'occuper de l'ensemble des réparations nécessaires. Sachez par ailleurs que les locataires ont le droit de vous demander une enquête de crédit ou de demander des références d'anciens locataires. Cependant, ils ne peuvent pas vous demander une somme d'argent dépôt en guise de sécurité ou pour une remise de clé, par exemple. Il n'est pas nécessaire de signer un bail chaque année. En cas de modification du bail, un avis de modification de bail est envoyé au locataire qui devra accepter ou refuser le changement. Si le locataire ne donne pas de réponse, la modification est considérée comme acceptée. Comme locataire, il est important de payer son loyer à la date prévue afin d'éviter des pénalités. Il faut aussi s'assurer de faire le versement au propriétaire et non à quelqu'un d'autre afin d'éviter de payer une deuxième fois la somme d'argent due. Le locataire ne peut pas exiger du locataire qu'il paie plus d'un mois de loyer à la fois ou qu'il fournisse des chèques postdatés pour les paiements de loyer. Le paiement se fait généralement tous les premiers du mois et dès le lendemain, le locataire est en faute s'il n'a pas payé. Dès qu'il y a retard dans un paiement de loyer, le locataire peut se tourner vers le tribunal administratif du logement, TAL, pour exiger le versement du loyer, mais aussi d'intérêts et de frais pour la demande au TAL. Après 3 semaines, il pourrait commencer les démarches pour une expulsion. L'assurance habitation. Un propriétaire peut demander au locataire d'avoir une assurance habitation pour ses biens. Dans ce cas, cette exigence doit alors être indiquée dans le bail et le locataire doit en prendre connaissance avant la signature du document. Une preuve de souscription à une assurance habitation peut aussi être exigée. Même si le propriétaire est assuré pour l'immeuble, le locataire devrait avoir une assurance personnelle pour les biens qui se trouvent dans son appartement, puisque même si la structure est assurée par le propriétaire, l'intérieur n'est pas assuré, précise Maëlle Boulet-Prézeau, économiste senior chez Desjardins. les hausses de loyer. Chaque année, le Tribunal administratif du logement fait des recommandations relatives à l'augmentation des loyers. Au début de 2026, le TAL a recommandé un taux de base de 3,1 % auxquels peuvent s'ajouter des sommes additionnelles pour compenser une augmentation du prix des taxes et des assurances pour un locataire, ainsi que le coût de travaux. Il est à noter que le TAL ne fixe pas de taux maximum d'augmentation de loyer. Si un locataire souhaite refuser une augmentation de loyer, il doit l'indiquer sur l'avis reçu de la part du propriétaire du logement au cours du mois suivant la réception de celui-ci. Les deux parties peuvent s'entendre à l'amiable. Si ça ne fonctionne pas, le locataire devra déposer un dossier au TAL pour une fixation de loyer. Le locataire a jusqu'au 31 mars 2026 pour remettre un avis d'augmentation de loyer pour un bail qui prend fin le 30 juin 2026. Pour un bail de moins de 12 mois, l'avis et la réponse doivent être donnés entre 1 et 2 mois avant la fin du bail. Pour un bail d'une durée indéterminée, c'est entre 1 et 2 mois avant la modification proposée. Le taux de base suggéré cette année est moins élevé que les taux de 2025, 4,5 % et 2024, 4 %. Or, il reste élevé comparativement aux années précédentes 2024. Par ailleurs, il semble que l'augmentation effrénée des deux dernières années soit en train de ralentir. Dans la province, le loyer moyen a reculé de 2,7 % en février 2026 par rapport à février 2025. Selon Maël Boulet-Prézot, économiste senior chez Desjardins, à l'échelle du Canada, on voit aussi dans les données de février 2026 qu'on commence à avoir des baisses de loyers dans les marchés qui sont plus dispendieux, comme à Toronto, recul de 4,3 % en Ontario, et à Vancouver, recul de 4,2 % en Colombie-Britannique. Même avec ce recul, la règle des 30 % de son revenu brut avant impôt consacré au logement peut être difficile à respecter pour les personnes actuellement à la recherche d'un logement. Par contre, ce qu'on voit cette année, c'est que les nouveaux logements qui arrivent sur le marché sont de plus en plus vacants. Ainsi, les promoteurs ont tendance à moins augmenter les loyers ou à offrir des mois gratuits pour essayer de chercher des locataires. Cette année, on s'attend donc à ce que les hausses de loyers en pourcentage soient plus élevées dans les plus vieux logements, explique Mme Boulet-Prézot. Vous écoutez Guide de survie du locataire, un dossier de Brittany Sullivan, paru le 27 mars 2026 dans La Presse. Les devoirs du propriétaire. Le locataire doit bien sûr payer son loyer et respecter les règlements de l'immeuble, mais le propriétaire aussi a des devoirs à remplir. Quand on loue un logement, on paie pour le droit à la jouissance paisible des lieux. Cela inclut l'obligation du propriétaire d'assurer une certaine quiétude dans l'immeuble, donc d'intervenir s'il y a des gens qui dérangent. Ça inclut aussi l'obligation d'assurer qu'il n'y a pas de nuisances, par exemple d'infestation de punaises ou de coquerelles. Puis vient aussi l'obligation de faire tous les travaux majeurs et nécessaires à l'immeuble et d'assurer l'entretien, explique Antoine Morneau-Sénéchal. Lorsque le locataire se rend compte d'un problème qui nuit à son droit à la jouissance paisible, il est important qu'il en fasse rapidement part au propriétaire. Le problème doit être pris en charge dans un délai raisonnable. Antoine Morneau-Sénéchal, avocat en droit du logement, précise « Pour une infestation, ça doit être pratiquement immédiat. On va parler de 48 à 72 heures. Pour des réparations plus majeures, ça va dépendre du type de travaux. L'important, c'est que le propriétaire fasse ses démarches relativement rapidement. Généralement, on va donner un délai de 10 jours. Mais si, par exemple, ça nécessite un travail plus spécialisé, on peut laisser un délai plus long, ajoute l'avocat. travaux majeurs. Lorsqu'il est nécessaire de réaliser des travaux majeurs, le locateur doit, dans la mesure du possible, les faire tout en laissant le locataire occuper son logement. Cependant, si nécessaire, il peut contraindre les locataires à quitter temporairement le logement. L'avis doit être envoyé au moins 10 jours avant les travaux si le locataire doit être évacué de son logement pendant une semaine ou moins. Si le locataire doit quitter son logement pour plus d'une semaine, l'avis doit être envoyé au moins 3 mois avant les travaux. Si le locataire refuse de partir ou ne répond pas à l'avis, le locateur a 10 jours suivant le refus pour faire une demande au TAL. C'est le tribunal qui devra trancher et le locataire devra démontrer que les travaux sont nécessaires et que ce n'est pas simplement pour mettre le logement au goût du jour, pour augmenter le loyer ou pour pousser le locataire à partir, explique Julien Delangy, avocat en droit du logement. Durant la période lors de laquelle il ne peut pas occuper le logement, le locataire ne paie pas de loyer au locateur. Celui-ci doit d'ailleurs lui verser une indemnité pour lui permettre de se reloger durant cette période, correspondant par exemple à la différence de loyer par rapport au nouvel endroit où il demeure. À la fin des travaux, le locataire doit pouvoir réintégrer son logement sans avoir à payer de hausse de loyer puisque le bail est toujours en cours. Les recours en cas de non-réparation d'un bris. Si le locataire ne répare pas un bris qui lui a été signalé par le locataire, plusieurs options existent. Mise en demeure. Le locataire peut envoyer une mise en demeure au locataire pour expliquer le problème. Il est conseillé de le faire par courrier recommandé avec une signature lors de la réception afin d'avoir une preuve de l'envoi. Diminution de loyer. Le locataire peut demander une diminution de loyer, même rétroactivement. Des sommes pour dommages et intérêts peuvent être ajoutées à cela. Le locataire ne peut pas décider d'arrêter de payer son loyer, puisque le locataire pourrait faire une plainte au TAL. Recours au TAL. Le locataire peut s'adresser au TAL, qui peut exiger du locataire qu'il fasse les travaux nécessaires. Réparation urgente. Dans le cas d'une urgence, si le locataire est injoignable, le locataire peut demander à une personne qualifiée de faire les travaux de base. Le locataire devra rembourser le locataire dans un délai raisonnable. Les expulsions. Les expulsions de locataires sont des procédures encadrées par la loi. Comme on l'a vu, en cas de travaux majeurs, les locataires doivent pouvoir regagner leur logement à la fin de ceux-ci. Et il ne peut pas s'agir de travaux visant à agrandir ou subdiviser un logement. Cette pratique est interdite depuis juin 2024 et jusqu'à la fin du mois de juin 2027. Attention! Certains locataires peuvent être tentés de contourner la loi. Un avis de travaux majeurs est envoyé au locataire, l'informant qu'il va devoir quitter le logement pour plusieurs mois, relève Julien Delangy, avocat en droit du logement. Le locataire va peut-être pouvoir revenir, mais ça implique 2 déménagements. Donc, on lui dit qu'il ferait probablement mieux de partir de façon définitive et d'accepter une somme d'argent pour partir. Si le locataire n'accepte pas, des fois, on va commencer les travaux dans des logements adjacents et les espaces communs. Il va y avoir des travaux assez dérangeants qui vont peut-être pousser le locataire à partir, raconte-t-il. Reprise pour la famille. Un propriétaire peut toutefois reprendre un logement pour lui-même ou pour un membre de sa famille directe, parents et enfants principalement, en respectant toutefois quelques conditions. Le propriétaire ne doit pas avoir d'autres copropriétaires, hormis son conjoint ou sa conjointe, et il ne doit pas avoir d'autres logements qui sont disponibles et qui pourraient accueillir la personne en question. Des mesures supplémentaires protègent aussi les personnes âgées qui demeurent dans leur logement depuis au moins 10 ans et qui ne gagnent pas des revenus très élevés. Voici les règles à respecter en cas de reprise de logement. Période de la réception de l'avis de reprise de logement pour un bail de plus de 6 mois. au moins 6 mois avant la fin du bail, avant le 1er janvier si la fin du bail est le 30 juin, au moins 1 mois avant la fin d'un bail de 6 mois ou moins. Pour un bail à durée indéterminée, c'est au moins 6 mois avant la reprise de logement. Délai de réponse du locataire. 1 mois à partir de la réception de l'avis, si le locataire ne répond pas, cela est considéré comme un refus. Délai pour déposer la demande au TAL en cas de refus. 1 mois à partir du refus indiqué par écrit. Si le locataire n'a pas répondu, la demande doit être remise au TAL dans les mois suivant la période de réponse du locataire. Expulsion pour faute. S'il a un retard de plus de 3 semaines dans le paiement de son loyer, le locataire risque la résiliation de son bail et l'expulsion lorsque le locataire en fait la demande au TAL. À tout moment dans l'année, le tribunal administratif du logement peut rendre une décision par laquelle un locataire est expulsé, mais une fois qu'on a une décision, pour la mettre en œuvre, si le locataire habite toujours le logement et ne le quitte pas, un huissier doit faire des démarches pour expulser le locataire. C'est à ce moment que la loi interdit à l'huissier d'expulser quelqu'un à certaines dates, fait savoir Julien Delangy. Jours durant lesquels l'expulsion est interdite. Lors des jours fériés et du 24 décembre au 2 janvier. Délai avant l'expulsion à partir de la décision du TAL, de 10 à 30 jours. Il est possible d'éviter l'expulsion d'un logement si le locataire paie les sommes dues avant la décision du TAL. Par ailleurs, si le locataire trouble la jouissance d'autres locataires dans l'immeuble ou ne se comporte pas de façon diligente dans l'utilisation du logement et que ça cause un préjudice sérieux au propriétaire ou au locataire, il est possible d'obtenir la résiliation du bail en s'adressant au tribunal administratif du logement, ajoute l'avocat. La cession de bail et la sous-location. Une cession de bail et une sous-location ne sont pas des synonymes. Ça vaut la peine de se renseigner sur les différences si l'on souhaite quitter son logement. Une cession de bail permet au locataire de céder son bail à un autre locataire qui l'aura trouvé et qui sera désormais responsable du bail et qui devra payer le loyer directement au propriétaire. Lors d'une sous-location de logement, le locataire initial demeure responsable du logement et des paiements. Un avis de cession de bail ou de sous-location de logement doit être envoyé au propriétaire qui a 15 jours pour répondre. S'il ne répond pas, cela est considéré comme s'il avait accepté la demande. Un locataire n'est pas tenu d'accepter une cession de bail, mais s'il la refuse sans raison sérieuse, le locataire peut quitter son appartement sans pénalité. Avant le projet de loi 31, le locateur devait fournir un motif sérieux pour refuser une cession de bail, explique Julien Delangy, avocat en droit du logement. Par exemple, si la cote de crédit du potentiel locataire n'était pas bonne ou s'il avait déjà eu des jugements de non-paiement auprès du TAL. Et si le locataire qui souhaitait céder son bail n'était pas convaincu du caractère sérieux du motif, on pouvait s'adresser au TAL pour faire trancher la question. Maintenant, il y a une nouvelle option. Le locateur peut décider de refuser une cession de bail pour un motif autre que sérieux. Et à ce moment-là, ça met fin au bail à la date prévue pour la cession. Le locataire doit quand même fixer le loyer conformément au règlement sur la fixation du loyer. Cela dit, dans les faits, on va souvent voir une augmentation importante entre deux locations, observe M. Delangy. C'est pourquoi, avant le projet de loi 31, les cessions de bail étaient considérées comme un moyen pour les locataires de s'assurer que les loyers n'étaient pas augmentés de façon abusive. Par conséquent, la clause G du bail est d'autant plus importante à vérifier avant de déménager dans un nouveau logement. Les locataires peuvent faire une demande au TAL afin de fixer le loyer si l'écart entre le précédent et celui proposé est trop élevé. C'était « Guide de survie du locataire », un dossier de Brittany Sullivan, paru le 27 mars 2026 dans La Presse.
Texte d'opinion, éducation, La Presse, recherche, Francine Thériault. Des professeurs s'inquiètent de la qualité du français. Un texte de Louise Leduc, paru le 23 mars 2026 dans La Presse. Malgré de mauvais résultats aux examens du ministère en français ces dernières années, Québec a reporté l'implantation des nouveaux programmes au primaire et au secondaire. Pendant ce temps, au cégep, les professeurs de français corrigent et ont le vertige. Ce jour-là est un matin douloureux, comme chaque fois qu'il y a remise de dissertation, aussi bien pour les étudiants que pour Raphaël Desroches, leur professeur au cégep de Joliette. Les copies, couvertes de rouge. Les notes, souvent amputées d'emblée de 30 points, la pénalité maximale pour la qualité du français. Comment se fait-il que de très nombreux étudiants au cégep ne sachent ni conjuguer un verbe ni accorder des participes passés simples, demande Raphaël Desroches. Il insiste, il adore son travail et il se sent privilégié de côtoyer des jeunes à un moment clé de leur existence. Mais oui, quand il se lance dans ses corrections, il a mal à son français, sauf pour de rares étudiants qui s'en tirent très bien. Devant toutes les ratures, les jeunes tombent des nues. J'ai souvent l'impression d'être le premier à leur faire réaliser qu'ils ne maîtrisent pas du tout leur langue maternelle, se désole Raphaël Desroches. Anne-Louise Goncalves-Fonseca, professeure de français au cégep de Rosemont, raconte elle aussi se trouver devant des jeunes abasourdis devant leurs 50 erreurs dans un texte de 50 mots. Certains me disent « Madame, je ne comprends pas, je n'ai jamais fait autant de fautes quand j'étais au secondaire ». Ils en faisaient tout autant, indique Madame Goncalves-Fonseca, seulement pour toutes sortes de raisons. Elle n'était pas corrigée. C'est un défi. Déprimant d'enseigner le français au cégep dans ces conditions. Il faut être passionné, répond avec diplomatie Madame Goncalves-Fonseca. C'est un défi d'enseigner la littérature à des étudiants d'ici qui nous arrivent à 17 ou 18 ans avec autant de lacunes dans des notions de base. Le cas des immigrants récents est bien sûr particulier, mais Madame Goncalves-Fonseca raconte avoir eu des étudiants qui étaient passés par la francisation, dont le français écrit était bien meilleur que celui des Québécois qui ont fait toute leur scolarité ici. Comme quoi, une maîtrise correcte, imparfaite bien sûr, on n'a jamais fini d'améliorer sa langue, n'est pas hors d'atteinte. Encore faudrait-il une valorisation minimale du français dans la société ? Lancent les professeurs interrogés. Ces lacunes ne sont pas qu'anecdotiques. En 2022, dans leur rapport de recherche commandé par le gouvernement du Québec, trois chercheuses ont conclu que les faibles compétences en français sont un obstacle majeur à la réussite des études collégiales. En février 2026, le gouvernement caquiste a annoncé que le nouveau programme de français au primaire et au secondaire était reporté d'un an, avec une implantation prévue à la rentrée 2027-2028. Les sciences et les maths priorisées. Au début de chaque session, Raphaël Desroches demande à ses élèves s'ils se sont fait dire par leurs parents de se concentrer sur les mathématiques et sur les sciences au fil de la scolarité. Beaucoup lèvent la main. À leur décharge en maths et en sciences, il n'y a pas de cadeau au secondaire. C'est souvent la bonne réponse ou rien. En français, les passes gratuites sont nombreuses et ici, les professeurs de cégep interrogés insistent. Ils ne jettent aucunement le blâme sur leurs collègues du secondaire contraints de suivre le programme ministériel qui fait foi de tout. Dans toute autre matière que le français, les fautes ne sont pas pénalisées, relèvent les professeurs consultés. Mais Madame Goncalves-Fonseca dit avoir été renversée d'apprendre qu'en plus, même en français au secondaire, les fautes ne sont habituellement pénalisées que s'il s'agit spécifiquement d'une évaluation d'écriture. C'est une compréhension de texte ? On évalue la compréhension, point à la ligne. Résultat, la maîtrise de la langue est rarement évaluée. Et quand elle l'est, les lacunes sont souvent masquées par les points accordés, par exemple, à l'originalité des idées. C'est ainsi qu'au cégep, tant de jeunes peinent encore avec l'emploi de la préposition « à » avec accent grave et le « a » du verbe « avoir » ou encore des homophones « c », « ces », « c », « ses », « c », « sait » du verbe « savoir », constate Madame Concalves Fonseca. À la formation générale, si les cégeps ne se relancent pas dans l'enseignement des tables de multiplication ou de l'addition simple, les cours de renforcement de français en parallèle des cours obligatoires tentent de réparer les pots cassés. Pour les cours obligatoires, on est ailleurs. Selon le programme, les jeunes n'en sont plus à faire de la grammaire, ce qui est revu rapidement, mais à analyser des œuvres littéraires. Et l'IA ? On ose la question qui tue, comme la posent les étudiants, dans le fond à l'heure d'Antidote et de l'intelligence artificielle. Ça compte-tu ? On ne peut plus faire comme si ces outils n'existaient pas, répond Claudia Marcil, professeure au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les professeurs, dit-elle, doivent ajuster leurs évaluations et leurs exigences en conséquence. Madame Marcil n'oublie jamais aussi que le français au cégep, un cours obligatoire, est pour certains aussi pénible que si on l'avait obligé, elle, à suivre un cours de comptabilité. Mais ce que regrette Madame Marcil, c'est que trop d'étudiants, bien avant l'arrivée au cégep, se disent que leur réussite en français leur est inaccessible. Avec une bonne motivation et du travail, chacun peut y arriver, pense-t-elle, comme un coureur du dimanche qui, avec un bon entraînement, parvient très souvent à réussir un marathon. À la CSN, au fil des ans, des consultations auprès des professeurs de cégep ont été menées. Ce qu'en retient Yves de Repentigny, vice-président responsable des cégeps à la CSN, « Avec le nombre d'élèves par classe et plusieurs groupes à leur charge, dit-il, c'est sûr que les enseignants au secondaire ne peuvent pas programmer 50 rédactions par année. Aussi, dit-il, les étudiants passent un temps fou à préparer l'examen du ministère en français, observe M. de Repentigny, soulignant à quel point il est formaté à outrance et prévisible. Et pourtant, plein de jeunes ne décrochent pas la note de passage. En savoir plus. Source, ministère de l'Éducation du Québec. 67% taux de réussite à l'examen d'écriture du ministère au secondaire ces deux dernières années. C'était « Des professeurs s'inquiètent de la qualité du français », un texte de Louise Leduc, paru le 23 mars 2026 dans la presse.